Médien.
Médien. Podcast.
Médien. Podcast. Bienvenue à toutes et à tous. Ma femme d'aujourd'hui nous démontre que l'âge n'est jamais une limite. C'est uniquement ce qu'on se dit, notre discours, qui peut façonner notre trajectoire. On y va pour les détails.
Mehdi 1, Yasmine, femme d'aujourd'hui.
Amal Hassoun, bonjour.
Bonjour Yasmine.
Merci beaucoup d'être ma femme d'aujourd'hui. Comment ça va la Amal?
Je ne peux être qu'heureuse. Je suis la femme d'aujourd'hui, c'est Yasmine, c'est du bonheur.
Merci beaucoup et moi aussi très heureuse. Alors Amal Hassoun, justement, est une femme qui continue de surprendre et d'inspirer. Pourquoi je dis ça? Parce qu'en fait, on travaille ensemble depuis très longtemps. On a travaillé ensemble dans plusieurs émissions de sensibilisation, d'accompagnement, de par en fait ta casquette d'accompagnatrice en discipline positive, d'accompagnatrice contre le harcèlement dans les écoles, etc. Mais là, en fait, je te reçois parce que, comme on dit, tabarakallah, tu ne cesses de m'impressionner avec tes engagements. Aujourd'hui, tu as ramené la lutte contre le harcèlement à un niveau supérieur, plus uniquement au sein de l'établissement scolaire dans lequel tu travaillais, mais à l'échelle nationale. Tu en as fait ta mission aujourd'hui. Ça fait un an que tu vadrouilles, en fait, que tu as fait tout le Maroc, tous les coins et recoins du Maroc pour former des personnes qui vont prendre le relais au sein des établissements. Est-ce que j'ai bien résumé, Amal?
Écoute, mieux que ce que je pouvais imaginer. c'est du bonheur en barre. C'est une chance dans ma vie que de pouvoir contribuer un tout petit peu dans le développement de notre pays. Et j'en suis fière.
Alors justement, de l'école ou on va dire ou de ta mission au sein d'un établissement scolaire à une mission à l'échelle nationale. Raconte-nous, qu'est-ce qui s'est passé?
Écoute, Yasmine, moi, j'ai tout le temps travaillé sur les compétences psychosociales au sein d'un établissement scolaire, et ça, je parle de 2004. On avait mis ça en place dans un établissement scolaire parce qu'on avait cette conviction qu'un enfant, il y a tout ce qui est académique, ok, on peut être brillant, mais on peut ne pas réussir sa vie parce qu'il nous manque certaines compétences de vie. Et donc, cet établissement, qui est toujours un établissement d'excellence, m'a offert l'opportunité avec une directrice qui était visionnaire, qui était, Allah yirhamha, une femme exceptionnelle, qui a vu ce que je lui proposais. Parce que pour moi, c'était impossible de continuer à travailler que sur de l'académique. Donc, elle a entendu ma demande. C'est comme ça que, de formation en formation, je me suis retrouvée à accompagner des enfants dans des ateliers de vivre ensemble, comment vivre ensemble. Et dans ces ateliers qui étaient obligatoires, qui étaient inscrits dans le programme de l'élève dans l'emploi du temps, il rentrait chez moi comme il allait dans une matière académique avec l'outil de travail, c'était lui et il travaillait sur lui-même. Et donc ça crée une confiance, une alliance entre les élèves et moi, à tel point qu'ils déposaient tous leurs soucis. Et dans les soucis qu'un enfant dépose, il y a toute une variété de soucis, et le harcèlement est apparu. Et comme je commençais à traiter au début d'une façon assez intuitive et avec des valeurs éducatives. Parce que pour moi, un enfant, quand il tombe dans un piège du harcèlement, il a besoin d'aide, que ce soit qu'il soit victime ou intimidateur. Je voyais que ses élèves avaient besoin d'aide. Et plus que ça, pour moi, ils vont continuer à cheminer ensemble. Donc, comment traiter ce harcèlement sans qu'il y ait des dégâts, sans qu'il y ait de la vengeance, que tout le monde puisse se sortir de la tête haute. Donc c'était ça mon principe. Et petit à petit, on voyait que quand les élèves arrivaient chez moi pour traiter des situations de harcèlement, d'abord, ils venaient plus facilement m'en parler à moi, parce qu'ils savaient que j'étais l'adulte qui les protégeait dans l'établissement, même si les autres avaient la même mission, mais moi j'avais cette proximité, ils le voyaient plus. Et en plus de ça, même les intimidateurs, ils arrivaient à reconnaître et à trouver des solutions à la situation. Donc c'était l'esprit. Et petit à petit, je me souviens très bien, une fois, tu nous avais reçus, Maryam Larraqi et moi-même, oui. Sourire de Reda. Et Maryam, elle me disait, parce que j'étais engagée aussi avec elle pour lutter contre le harcèlement, elle me disait, il nous faut une personne comme toi dans chaque établissement. Et à l'époque, je ne comprenais pas trop ce que ça voulait dire, parce que tout simplement, elle voulait dire qu'il y a un adulte qui représente cette protection et vers qui les enfants peuvent s'orienter quand il y a un problème. Pourquoi elle s'en rendait compte ? Parce qu'elle, elle voyait quand on faisait des missions de sensibilisation, de prévention dans les établissements scolaires, oui, c'est OK, les enfants savaient ce que c'était le harcèlement scolaire, mais quand ils allaient vers la direction, les surveillants généraux, etc., c'était... Qu'est-ce qu'ils avaient comme outil ? C'était sanctionner. Mmh. Et les enfants savaient très bien que la sanction, ce n'était pas ce qui les protégeait en réalité.
Contre les autres, oui. Ça pouvait calmer
à un moment donné, mais ça ne les protégeait pas sur le long terme.
C'est pour ça qu'en fait, pardon, Amel, de t'interrompre, c'est pour ça que les enfants ont toujours peur, en fait, d'aller en parler même à leurs parents, parce qu'ils ont peur que les autres enfants se fassent sanctionner. Donc, ce ne serait que ponctuel et ça ne ferait qu'envenimer la situation davantage.
Ils le disent clairement, les enfants. Ils le savent. Donc, dans mon bureau, atterrissait cette partie-là que les adultes n'arrivaient pas à croire et que, dans tous les cas, les adultes, ils allaient sanctionner. Moi, je traitais ça en rééquilibrant les forces, en remettant un cadre d'autorité. Et du coup, ça fonctionnait. C'était des solutions qui venaient rapidement. On retrouvait le calme et la sérénité. Il y avait ce suivi parce que j'étais tout le temps sur place. Donc, ça permettait de rendre le climat scolaire
serein. C'est ça.
Exactement.
Et ensuite, qu'est-ce qui t'a motivé à emporter ça à l'échelle nationale ? Finalement, aujourd'hui, tu portes un projet au sein du ministère de l'Éducation nationale.
Alors, c'est ma rencontre avec Résis qui est le centre qui se trouve en France, mais qui est géré par Marie Cartier et Jean-Pierre Bellon, qui sont deux grandes pointures de la lutte contre le harcèlement. Et eux, ils ont la théorie. Moi, j'étais quelqu'un qui travaillait avec mes valeurs, etc. J'avais cet objectif, mais je ne voyais pas exactement toute la théorie qui sous-tendait ce que je faisais. Mmh. Et quand les collègues me disaient comment tu fais, je disais écoutez, vous pouvez venir et vous allez voir.
Tu faisais avec les tripes, tout simplement, avec l'intuition et les tripes.
Mais en fait, eux, ils m'ont amené la théorie et ça m'a permis de professionnaliser
bien
ce
sûr,
que je fais.
Bien sûr.
Et donc, le ministère qui regardait tout le temps ce que je faisais et qui me demandait de venir dupliquer et faire ces choses-là pour le ministère, moi, j'en étais pas capable parce que j'étais engagée dans un établissement privé. Et quand j'ai quitté, tout de suite, ils m'ont demandé de mettre un projet. Et ça, c'était en 2022, janvier 2022. Nous avons lancé les premiers pilotes parce que oui, cette méthode, comme la théorie vient d'ailleurs, on a l'impression qu'elle vient entièrement d'ailleurs, alors qu'il n'y a rien d'ailleurs. C'est des valeurs qui sont chez nous et qui ont été pratiquées pendant des années chez nous. Chaque semaine, je me déplace dans une AREF où j'accompagne, je vois comment se passe la formation, je forme, pour certains je forme avec eux, et je vais faire des visites dans les établissements pour voir comment est-ce que c'est mis en place. Ça, c'est la première année.
Alors, quand tu dis AREF, c'est
l'académie.
L'académie régionale.
Voilà, l'académie régionale. Parce que le but, c'est de faire réussir ce projet et que chaque enfant dans notre établissement, dans chaque établissement, chaque enfant arrive le matin avec la banane, même s'il a des difficultés
scolaires,
peut-être sur le plan académique, il est au moins en sécurité dans son établissement.
Ça, c'est magnifique. Alors, 2 ans de vadrouille, encore une année comme ça, chaque semaine dans une région spécifique du Maroc. En même temps, Amel, c'est une épouse, c'est une maman, c'est une grand-mère. Comment tu fais pour gérer tout ça, Amel? Toutes ces responsabilités-là, et justement, depuis 2 ans, encore 1 an, voilà.
Franchement, j'ai une famille extraordinaire qui me soutient. On se soutient, c'est vrai que je soutiens beaucoup ma famille, mais c'est un projet où on a mis beaucoup de plusieurs garde-fous pour pouvoir descendre au terrain, sur le terrain, et faire ce que je fais. Et donc, que ce soit mon époux ou mes enfants, mes petits-enfants, il y a eu toute une adhésion, et ils savent très bien que je suis absente. Il y a une logistique, il y a tout ce qu'il faut mettre en place.
Mais surtout que toi, tu étais extrêmement présente, en fait, pour tes petits-enfants, pour ta famille. Voilà, tu es un maillon de la chaîne, on va dire, qui supporte vraiment émotionnellement et tout. Et là, quand tu n'es pas là, je me dis comment ils font. Ça doit être dur pour eux quand même.
C'est vrai que moi, je dis, nous sommes co-mamans. Mes petits-enfants ont 2 mamans.
Oui.
Pendant l'année, nous sommes 2 à les gérer. Donc, c'est une grande chance. Parce que quand moi, je ne suis pas là, c'est elle qui monte au créneau. Et elle fait ce que moi, je dois faire. Et quand elle n'est pas là, c'est moi qui monte au créneau. Donc là, c'est elle qui assume ma part. Moi, je mets une structure et une logistique de fou, parce qu'il faut penser à tout avant de partir. Il faut tout organiser, passer les consignes, etc. Et il y a un suivi au quotidien. On s'appelle. Alhamdoulilah, il y a tellement de moyens maintenant pour qu'on puisse communiquer, pour qu'on soit présent, même si on ne l'est pas physiquement. C'est pas la perfection. Mais il y a tellement de. Je pense que quand ils me voient heureuse et ils voient que je m'éclate sur le terrain. Ils sont heureux pour moi et ils se disent quand même, c'est la moindre des choses, nous sommes tous là, chacun doit prendre un peu sur lui. Ça fait grandir aussi les enfants, vous savez, les petits-enfants, moi j'ai l'impression qu'ils mûrissent encore plus quand on les responsabilise plus, quand ils savent qu'ils contribuent à ton bonheur. Ils sont là, tu fais beaucoup de choses pour eux, mais là c'est eux qui font pour qu'eux aussi sentent qu'ils ont contribué dans cette réussite d'un projet qui est à l'échelle nationale. C'est vrai que je n'aurais pas pu faire ça si j'avais des boulets à traîner.
Mais en même temps, en fait, ils sont encore très jeunes, ils n'ont peut-être pas aussi la notion de... La perception de ça, de se dire oui, on contribue à quelque chose de très grand, c'est pour tous les enfants, pour tous les collégiens de notre pays, mais aussi ils voient leur grand-mère finalement porter ses rêves et ne pas se mettre de barrières et de limites.
Mais c'est ça, c'est-à-dire eux, ils n'ont pas conscience, merci de le dire, eux, ils ne peuvent pas être conscients pour l'enfant qui est au bout du maillon, ils n'en ont pas conscience, mais ce qu'ils savent, c'est que moi, je suis heureuse de faire ce que j'ai fait. Tu as tout à fait raison de le souligner, c'est dans ce sens-là, quand je dis, ils contribuent, c'est à mon bonheur, à moi, et bien sûr, ils n'ont pas conscience pour l'instant, ils ne savent pas que c'est un projet qui a une ampleur. Ils savent que leur grand-mère bouge beaucoup, ils savent que leur grand-mère est heureuse de bouger, ils savent que leur grand-mère fait des choses, mais ils ne sont pas suffisamment conscients. Il y en a un, l'aîné, à 14 ans, donc même s'il peut comprendre et eux-mêmes, ils sont très conscients de tout ce qui est harcèlement, ils protègent les enfants sur le terrain, donc ils sont investis à leur manière, mais ils ne peuvent pas imaginer
la portée,
la portée, non.
Alors, Lala Amel, quelques années en arrière, ou on va dire beaucoup d'années en arrière, est-ce que tu t'imaginais arriver à cet âge-là, être grand-mère, donc avec tout ce que ça porte comme connotation dans notre société surtout, être encore sur les routes et être cette femme portée par ses rêves et parfois même un peu détachée de sa famille pour pouvoir vivre son rêve?
Alors, c'est vrai que c'est une excellente question parce que c'est vrai qu'on a des représentations dans notre tête. Et moi, la première, le jour où j'ai eu mon petit-fils, ça correspondait à la découverte. J'ai une maladie auto-immune et j'étais complètement handicapée. Et du coup, j'ai inconsciemment associé mon état au statut de grand-mère.
Grand-mère.
Je me voyais les pieds en tailleur, le bébé dans mes bras. Et bon, voilà, ma vie est là. Et puis, je me suis bien reprise en main et j'ai dit, alhamdoulilah, il y a les traitements, il y a tout ce qu'il faut. Et je me suis redressée et je suis repartie pour un tour et une nouvelle vie. J'ai l'impression d'avoir une nouvelle vie avec ces petits-enfants. Je vis une deuxième étape de ma vie, que ce soit sur le plan familial ou sur le plan professionnel. Ça a été un nouvel élan. Et franchement, ce n'est que, pour moi, ça m'a propulsé, ça ne m'a pas freiné. Mais c'est vrai qu'au début, comme toute personne normalement constituée, j'ai imaginé que ça y est, je suis dans une phase où il faut passer à autre chose, peut-être décélérer le rythme, peut-être vivre une retraite, peut-être... C'est peut-être comme ça qu'au début, j'ai imaginé, mais ça n'a pas duré très longtemps. Je pense qu'il y a quelque chose à l'intérieur qui ne me laissera jamais me vivre de cette manière-là. Parce que pour moi, j'ai toujours trouvé du plaisir dans ce que je fais.
Oui.
J'ai toujours eu la chance de vivre professionnellement du bonheur en travaillant. Donc, alhamdoulilah, ça a continué avec ce projet et on continue, voilà.
Donc, encore une année de vadrouille. Est-ce que tu penses qu'après, tu vas pouvoir te poser ?
Alors, Yasmine, j'ai une autre annonce.
Vas-y.
J'ai un autre pied sur un autre projet qui est magnifique.
C'est vrai que
le ministère a mis en place, c'est les compétences psychosociales dans les établissements. J'ai déjà démarré, on a fait un pilote avec un pilote qui a permis qui a été évalué sur les compétences psychosociales. Et
c'est quoi la différence avec ce projet-là?
Alors, c'est complémentaire. Le TGV ne peut pas rouler que sur un seul rail, il a deux rails. Et deuxième rail, c'est les compétences de vie. Et là, on travaille sur les compétences de vie. Et les compétences de vie travaillent sur le harcèlement. D'accord ? Et au final, on se retrouve. Mais ce sont deux projets qui ont démarré en parallèle, mais qui se rejoignent.
Okay.
Mais ce qui est important, que ce soit le premier projet de lutte contre le harcèlement, c'est vraiment donner à l'élève et aux parents le signal que l'établissement ne laissera pas l'enfant dans sa souffrance, qu'il soit victime ou intimidateur. L'autre projet, ça développe toute la prévention, c'est-à-dire on apprend le vivre ensemble, on va faire du préventif. Et le jour où il y a quand même un problème qui arrive, parce qu'on a beau faire de la prévention, on a beau travailler sur des outils de prévention pour notre santé, un jour on est malade, et bien quand on est malade, on va voir le spécialiste, et bien pareil, quand ça arrive, on a fait de la prévention, et malgré ça, il y a eu un dysfonctionnement, et bien il y a des spécialistes qui vont résoudre d'une façon éducative et qui vont faire grandir les enfants.
Amal Hassoun, un plaisir, un honneur de t'avoir eu aujourd'hui, ma femme d'aujourd'hui. Merci beaucoup pour ton temps et je te souhaite bon courage. Je te souhaite beaucoup d'énergie et voilà, d'épanouissement dans tout ce que tu entreprends et une magnifique femme d'aujourd'hui, justement. Merci beaucoup, Leila Amal.
Merci beaucoup, merci Leila Yasmine. Et à très bientôt, Inch'Allah.
À très bientôt.
Au revoir.
Merci à toutes et à tous pour votre confiance. Femme d'aujourd'hui et sa version homme, c'est du lundi au vendredi sur les ondes de Médien et à tout moment, à la demande et en avant-première sur Médien Podcast et les plateformes de podcast habituelles.